Une fois décidée, mademoiselle n'avait plus songé qu'au moyen de venir à bout de son dessein. Le premier pas lui paraissait l'un des plus difficiles. C'était à elle, vu la disproportion des rangs, à faire les avances et à demander la main de Monsieur de Lauzun. Mademoiselle y était toute préparée. Elle ne redoutait pas un refus. Mais il ne lui suffisait pas d'être épousée. Elle voulait avoir son roman, être aimée et se l'entendre dire. Et c'était cela qui n'était pas tout simple.
« Je ne sais, » dit-elle, « s'il voyait ce que j'avais dans le cœur, je mourrais d'envie de lui donner occasion de me dire ce que le sien sentait pour moi. Je ne savais comment faire. »
Il n'y avait que la grande mademoiselle dans toute la cour de France pour être aussi novice au manège d'amoureux. Après y avoir bien pensé, elle s'arrêta à un expédient classique. Ce sont les meilleurs. Elle résolut de dire à Lauzun qu'il était question de la marier et qu'elle voulait en avoir son avis. S'il l'aimait, il se trahirait. Elle se mit un continent à sa recherche, ce même de Mars, où elle s'était éveillée si gaie, et le trouva chez la reine, à l'heure où cette princesse s'enfermait dans son oratoire pour
prier Dieu.
Marie-Thérèse prolongeait pieusement ses séances, pendant lesquelles il s'établissait quelque liberté dans sa chambre.
Je m'en allais à lui et le menais dans une fenêtre. À sa fierté et à son air, il me parut l'empereur de tout le monde. Je commençais. Vous m'avez tant témoigné d'amitié depuis quelque temps que cela me donne la dernière confiance en vous. Et je ne veux plus rien faire sans votre avis.
Lauzun protesta, ainsi qu'il convenait, de sa reconnaissance et de son dévouement. Et elle reprit.
« On dit dans le monde que le roi me veut marier au prince de Lorraine. En avez-vous ouï parler ?»
Non, il n'en avait pas ouï parler. Mademoiselle en fit là des explications confuses sur ce qu'elle voulait rester en France et trouver enfin le bonheur.
« Pour moi, » conclut-elle, « je ne saurais aimer ce que je n'aime pas, ce que je n'estime pas. »
Lauzun approuva tout et demanda
« Songeriez-vous à vous marier ?»
Elle répondit naïvement
« J'enrage quand j'entends compter les gens qui aspirent à ma succession.
« Ah !» dit-il, « rien ne me donnerait tant d'envie que cela de me marier. »
À cet endroit, la reine sortit de son oratoire et il fallut se quitter. Lauzun ne s'était pas trahi. Mademoiselle se sentait néanmoins très heureuse.
Je songeais, voilà un grand pas de fait et il ne peut plus douter de mes sentiments. À la première occasion, je connaîtrai les siens, j'étais bien contente de moi et de ce que j'avais fait.
Lauzun avait en effet compris sur le champ que la grande mademoiselle se jetait à sa tête et il était bien décidé à entrer dans le jeu, à tout hasard, pour en tirer ce qu'il pourrait. Sans aller jusqu'au mariage, l'amour d'une grande princesse peut être avantageux, de bien des façons. Il se prêta donc à renouer l'entretien et mit tout son art, tout son esprit, à défaut du moindre sentiment, à échauffer la passion de cette vieille fille et à flatter les faiblesses
qui se joignait au mouvement de son cœur pour lui faire souhaiter de se marier. Elle ne pouvait pas supporter la vision de ses héritiers aux aguets. Lauzun appuya sur le chagrin d'entendre dire « un tel aura une terre, l'autre une autre ». Je le trouve très juste, continuait-il, car il faut vivre tant que l'on peut et n'aimer point ceux qui souhaitent notre mort.
Elle ne se résignait pas à vieillir. Ce n'était pas coquetterie. Mademoiselle n'en avait jamais eu. C'était conviction qu'elle devait à sa haute naissance d'être une créature privilégiée. Elle disait très sérieusement,
« Les gens de ma qualité sont toujours jeunes. »
Et elle s'habillait comme à 20 ans et continuait à danser. Lauzun la mit sur ce sujet délicat et ne lui ménagea point les vérités désobligeantes avant d'en arriver au baume qu'il tenait en réserve. Il entrait dans ses habitudes de brutaliser les femmes éprises de lui pour se les soumettre, et il en avait ici deux raisons pour une.
Sa maxime, rapporte Saint-Simon, était que les Bourbons voulaient être rudoyés et mener le bâton haut, sans quoi on ne pouvait se conserver sur eux aucun empire.
Le système ne lui avait pas mal réussi avec Louis XIV. Lauzun put croire, dans ses premiers temps, qu'il réussirait aussi avec Mademoiselle, tant celle-ci acceptait humblement ses duretés. Il lui disait
« Je trouve que vous avez raison de prendre un parti. Rien au monde n'étant si ridicule, de quelque qualité que l'on soit, que de voir une fille de 40 ans habillée dans les plaisirs, dans le monde, comme une de 15 qui ne songe à rien. Quand l'on est à cet âge, il faut ou se faire religieux, ou dévote, ou habiller modestement, n'aller à rien.
Il accordait que Mademoiselle, par exception, à cause de sa qualité, pourrait se permettre, de loin en loin, un acte ou deux d'opéra. Mais son lot de vieilles filles était
d'aller à vêpres, aux sermons, aux saluts, aux assemblées des pauvres, aux hôpitaux,
ou bien alors se marier. C'était l'alternative qu'il lui avait ménagée.
Car les temps, poursuivait-il, à tous les âges, on va partout. On est habillé comme les autres pour plaire à son mari. On va au plaisir parce qu'il veut que l'on fasse comme les autres. »
Chacune de ces paroles s'imprimait dans l'esprit de l'amoureuse princesse. Quand Saint-Simon, qui avait connu intimement Lauzun, eut lu les mémoires de Mademoiselle, il renonça à compter après elle leur aventure, tant son récit était exact et vivant.
« Qui a peu connu Monsieur de Lauzun, écrivait-il, le reconnaîtra en tout ce que Mademoiselle en raconte, et jusqu'à croire l'entendre parler. »
Par une contradiction très naturelle, Mademoiselle, au milieu de son ivresse, conservait
« du regret de ne pas être reine dans des pays étrangers. »
Lauzun s'efforça de l'en guérir. Il lui représentait que la reine aurait passé le plaisir.
« Si vous aviez été reine, impératrice, vous seriez fort ennuyée. Demeurez donc toute votre vie ici.
Si vous avez envie de vous marier, vous avez de quoi faire un homme égal en grandeur et en puissance au souverain. Il saura par-dessus que vous aurez le plaisir de l'avoir fait. il vous en aura l'obligation. Il ne faut point dire comme il faut qu'il soit fait pour posséder un tel honneur, car en vous plaisant et étant choisi par vous, ce sera un homme admirable. Rien ne lui manquera. Mais où est-il ?
Ce langage qui nous paraît si clair ne l'était pas encore assez au gré de mademoiselle. Cette princesse attendait toujours un aveu, des douceurs qui ne venaient jamais. Lauzun faisait l'ami désintéressé, celui qui est entièrement hors de cause, et il étalait à mademoiselle toutes les raisons qui devaient la dégoûter d'un mariage inégal. Bien loin de chercher à lui parler, il se tenait respectueusement à distance lorsqu'il la rencontrait.
« C'était moi, dit-elle, qui allais à lui. »
Sa réserve et ses réticences attisaient le feu et cela le divertissait. Mais il n'osait pas, pour le moment, s'en promettre autre chose que plus de crédit encore à la cour. Sur ces entrefaites, la duchesse de Longueville voulut établir le compte de Saint-Paul, celui de ses fils qui ressemblait infiniment à la Rochefoucauld. Malgré l'énorme différence d'âge, son fils n'avait que 20 ans. Elle songea à mademoiselle qui était toujours le plus grand parti du royaume et lui fit porter des ouvertures qui furent éludées, mais avec une douceur dont tout le monde s'étonna. Mademoiselle avait ses raisons.
« Pour moi qui avais mon dessein dans la tête, je n'étais pas fâchée que le bruit courût, que l'on parlait de me marier à Monsieur de Longueville. Il me semblait que c'était en quelque façon accoutumer les gens à ce que je voulais faire. »
Pour une fois que mademoiselle se mêlait de faire de la diplomatie, son calcul se trouva juste. À quelques jours de là, comme l'on causait de cette affaire devant Lauzun, l'un de ses amis, auquel n'avait pas échappé que mademoiselle l'écoutait avec plaisir, lui demanda pourquoi il ne tenterait pas la fortune. D'autres seigneurs se joignirent au premier et tous ensemble lui assurèrent que rien n'était impossible à un homme aussi en avant dans les bonnes grâces du roi. Lauzun se défendit avec chaleur de penser seulement à épouser mademoiselle. Mais, rentré au logis, il rumina toute la nuit cette conversation et commença dès lors à ne plus trouver l'idée aussi chimérique. Il fallut remettre à plus tard. À s'en assurer, le roi emmenait la cour en Flandre et il avait donné le commandement de l'escorte à son favori. C'était un voyage politique. L'Espagne venait d'être vaincue presque sans résistance dans la guerre de dévolution. 1667-1668. Louis XIV jugeait utile de montrer la royauté française dans toute sa pompe aux populations devenues nôtres par le traité d'Aix-la-Chapelle de mai 1668. Et chacun se préparait à faire bonne figure dans un spectacle dont l'étrangeté n'a plus d'analogue dans notre vie moderne. En 1658, Lauré, le gazetier, avait évalué à près de 12 000 âmes,
non compris les marmitons.
Le convoi, formé par la cour à son départ pour Lyon. Ce chiffre fut certainement dépassé en 1670, où la seule famille royale, plus qu'au complet, puisqu'elle comprenait Madame de Montespan et Mademoiselle de la Vallière, traînait une suite de plusieurs milliers de personnes, non compris l'armée d'escorte en dames ou filles d'honneur, gentilshommes, pages,
domestiques, de tout ordre. Et des deux sexes, Valtaille et Valet des Valets, le roi emmené jusqu'à sa nourrice. La noblesse, d'autre part, était plus disciplinée qu'au temps de Mazarin et d'Anne d'Autriche, et nul n'avait osé rester en arrière. Le départ se fit de Saint-Germain le 28 avril. Pélisson écrivait le surlendemain à son amie Mademoiselle de Scudéry
« Il n'est pas possible de vous dire combien la cour est grosse. Elle n'est point telle à Saint-Germain, ni à Paris. Tout le monde a suivi. »
La quantité des bagages donnait à cette foule l'aspect d'une tribu nomade en déplacement. Tous les hauts personnages emportaient des mobiliers complets. Louis XIV avait dans ce voyage une
chambre de damas cramoisi
pour l'usage ordinaire et une autre très magnifique pour les endroits où l'on avait de la place. Le lit de cette dernière était
de velours vert en broderie d'or et d'une grandeur immense qui passait celle de beaucoup de petites chambres.
Il était accompagné
de toute la suite d'ameublement qu'il faut quand le roi est logé à l'aise. Et pour la reine de même, ce sont de très belles tapisseries des gobelins, quantité de plaques, bras et chandeliers d'argent et autres pièces.
Le service de la bouche emportait une batterie de cuisine monstre et les ustensiles nécessaires pour servir matin et soir, en vaisselle plate, plusieurs tables immenses. Quand tout cela était déballé, leur majesté était
comme au palais des Tuileries, ou à peu près.
Monsieur ne pouvait se passer d'être entouré de jolies choses, ni de varier ses toilettes à l'infini. Il était encombrant en voyage. Mademoiselle, peu exigeante, avait néanmoins son rang à garder. Et sa
chambre de campagne
était imposante. Un voyage où elle logea 10 jours dans une maison de paysans. Basse plafond. Il fallut creuser le sol pour faire tenir son lit
à pavillon.
Parmi les courtisans, plusieurs des principaux, obligés par leur charge d'avoir table ouverte, menaient avec eux un personnel et un matériel de cabaret ambulant. D'autres voulaient se faire remarquer par la galanterie de leur équipage. Celui de Lauzun avait été extrêmement admiré à la sortie de Paris.
Il tenait toute la rue Saint-Honoré,
écrit Mademoiselle, qu'il avait croisé par hasard.
Il était très beau et magnifique.
Les gens modestes emportaient tout au moins un lit de camp, sous peine de coucher par terre, pendant tout le voyage. On se représente le train de chariots, fourgons et chevaux ou mulets de bât qui se déroula sur la route de Flandre. En 1670, la difficulté de faire arriver le soir à chacun ses bagages quand la couchée s'éparpillait sur une ville entière ou sur un archipel de villages, les accidents de toutes sortes qui attendaient la caravane dans des chemins presque toujours effroyables et au passage de rivières, presque toujours son pont, l'affairement des uns, l'impatience des autres et le désordre universel, l'angoisse d'avoir perdu ses cuisiniers. Si l'on était Marie-Thérèse, la désolation de ne plus retrouver son rouge et sa poudre, si l'on était monsieur ou quelque jolie femme. Enfin l'épreuve où étaient mis les caractères
et l'espèce de gloire assurée, à qui garder sa bonne humeur au travers de fatigues souvent excessives et de contretemps perpétuels. Louis XIV était bon voyageur, s'arrangeait de tout et exigeait que l'on en fît autant. Il détestait les gémissements, les femmes qui ont peur et celles qui tiennent à coucher dans un lit. La reine Marie-Thérèse commençait à gémir avant d'être montée en voiture, et c'était une nouvelle publique que de l'avoir vue de bonne humeur pendant un voyage. Les soupers de famine, ou les nuits passées en carrosse à attendre un chariot qui s'était trompé de chemin, lui paraissaient d'effroyables calamités. Les mauvaises routes la faisaient pleurer, et elle jetait les hauts cris en traversant les gués. On la trouva une fois, tout en larmes, arrêtée en rase campagne, et refusant obstinément d'avancer ou de reculer. Ses peines étaient sans compensation, car elle n'avait pas de curiosité. Les conférences, dont le roi régalait les dames tout le long du chemin, sur la tactique et les fortifications, ennuyaient mortellement la pauvre reine, et ne savait même pas le cacher. À dire vrai, de toutes ces femmes qui s'empressaient derrière le roi, sur les remparts des villes ou les anciens champs de bataille, en ayant l'air de boire ses paroles, la seule mademoiselle l'écoutait avec plaisir. Depuis ses exploits de la fronde, elle s'était toujours crue du métier. Monsieur était d'une grande ressource en voyage. Lorsqu'il choisissait d'être avec le roi, monsieur savait toujours tant de nouvelles que toute la carrossée s'animait à l'instant. Le soir, quand les lits se faisaient attendre, il mettait des jeux en train, ou bien il mandait les violons du roi et donnait le bal. Faute de mieux, on dansait dans une grange. Il n'était sensible qu'aux accidents de toilette, mais pour cela, il ne concevait pas que l'on pût les prendre légèrement. Le voyage de 1670 fut contrarié par des pluies torrentielles, et le plus mouillé était toujours le commandant en chef des troupes, obligé de prendre tête nue les ordres du roi. Monsieur considérait avec une espèce d'indignation la mine piteuse de Lauzun, ruisselant et défrisé, et il disait ensuite
« Pour rien, je le montrerai à tous comme était monsieur de Lauzun tantôt. Il n'avait pas bon air, avec ses cheveux mouillés. Jamais je n'ai vu un homme si affreux. »
Mademoiselle était encore plus indignée que monsieur, mais c'était que l'on put trouver monsieur de Lauzun laid.
En quelque état qu'il fût, et que le roi l'exposa de gaieté de cœur à s'enrhumer, monsieur de Lauzun était à tout moment sans chapeau et il se mouillait fort la tête. Je disais au roi, « Sire, commandez-lui de mettre son chapeau, cela le fera malade. Enfin, je le dis si souvent que j'eus peur que l'on le remarqua. »
Mademoiselle s'inquiétait peu pour elle-même des misères de la route. Aucune femme ne faisait moins de grimaces pour manger un mauvais souper, pour coucher dans sa voiture ou dormir sur une chaise. Elle n'avait cependant pas la réputation d'être bonne voyageuse, à cause de la frayeur insurmontable que lui inspirait l'eau. Dans un guet, elle criait autant que la reine. Les marques d'impatience du roi n'y pouvaient rien.
« Dès que je la vois, disait-elle de l'eau, je ne sais plus ce que je fais. »
Le reste de la caravane était résigné à camper à la grâce de Dieu. On savait qu'il fallait être content sous peine de déplaire, et l'on était accoutumé à être mal. Il en était de même dans tous les voyages. En 1667, la cour avait passé une nuit au château de Mailly, près d'Amiens. L'abbé de Montigny, aumônier de la reine, écrivait le lendemain à des amis.
« Mailly, mesdames, est une chat-huanterie. Tout le monde y était tellement entassé que madame de Montausier coucha sur un tas de paille, dans un cabinet, les filles de la reine dans un grenier, sur un tas de blé, et votre serviteur sur un tas de charbon. »
En 1670, la nuit du 3 au 4 mai défraya longtemps les correspondances. La journée du 3 avait été pénible. L'immense convoi était parti de Saint-Quentin pour Landrecy, de très bonne heure, par une pluie battante qui faisait grossir à vue d'œil les cours d'eau et les marais. D'heure en heure, on enfonçait davantage dans les boues et la route s'encombrait de chevaux et de mulets, morts ou abattus, de charrettes embourbées et de bagages déchargés. Les carrosses ne tardèrent pas à se mettre de la partie. Le maréchal de Bellefond abandonna le sien dans une fondrière et fit le reste de l'étape à pied, avec Benserade et deux autres. Monsieur de Crussolles eut de l'eau par-dessus les portières, en traversant la Sambre, et Monsieur de Bouligneux, qui le suivait, fut contraint de dételer au milieu de la rivière et de se sauver sur l'un de ses chevaux. Quand se vint à la reine et à mademoiselle, on eut beau les conduire à un autre guet.
Fort sûr !
Les cris et leur agitation furent telles que l'on renonça à les faire passer. Elles allèrent chercher un abri dans la seule habitation du rivage. C'était une pauvre maison composée de deux pièces, se commandant et n'ayant que la terre pour plancher. Mademoiselle y enfonça jusqu'aux genoux dans un trou boueux. Landrecy était sur l'autre bord. La nuit tombait et chacun mourait de faim, car l'on n'avait presque rien eu à manger depuis Saint-Quentin. Le roi, très mécontent, déclara que tout le monde resterait là et que l'on attendrait le jour dans les carrosses. Mademoiselle remonta dans le sien, mit son bonnet de nuit, sa robe de chambre et se délassa en dessous. Mais elle ne put fermer l'œil,
car c'était un bruit effroyable.
Quelqu'un lui dit
« Voilà le roi et la reine, où ils vont manger ?»
Elle se fit porter telle qu'elle à travers les bourbiers dans la petite maison et trouva la reine fort maussade. Marie-Thérèse n'avait pas de lit et elle se lamentait, disant
qu'elle serait malade si elle ne dormait point,
et demandant où était le plaisir de voyage pareil. Louis XIV mit le comble à son chagrin en proposant de coucher toute la famille royale et quelques familiers dans la plus grande des deux pièces, l'autre devant servir de quartier général à Lauzun.
« Voilà, disait le roi, qu'on vient d'apporter des matelas, Romecourt, à un lit tout neuf sur quoi vous pourrez dormir.
Quoi ?
Se récriait la reine.
Coucher tous ensemble, cela serait horrible.
Quoi ? Reprenait le roi. Être sur des matelas, tout habillé, il y a du mal, je n'y en trouve point. »
Mademoiselle, prise pour arbitre, n'y en trouva point non plus, et la reine céda. Cependant, la ville de Landrecy avait envoyé à ses souverains un
« bouillon fort maigre »
dont la mauvaise mine consterna Marie-Thérèse.
elle le refusa avec dépit. Quand il fut bien entendu,
qu'elle n'en voulait point.
Le roi et mademoiselle, aidés de monsieur et de madame, l'expédièrent en un instant. Et, dès qu'il n'y eut plus rien, la reine dit
« J'en voulais, et l'on a tout mangé. »
On allait rire, au mépris de l'étiquette, sans un grand plat, venu aussi de l'Andrecy, et sur lequel on se jeta. Il y avait dedans, raconte mademoiselle, des viandes
si dures que l'on prenait un poulet à deux par chaque cuisse, et on avait peine, en le tirant de toute sa force, d'en venir à bout.
Puis, l'on se coucha. Ceux qui n'avaient pas encore leur bonnet de nuit et leur robe de chambre les mirent. Et c'est dans l'appareil d'Argan qu'il faut se présenter la royauté française, pendant cette nuit mémorable. Au coin de la cheminée, sur le lit de Romecourt, était la reine, tournée de manière à regarder ce qui se passait.
« Vous n'avez qu'à tenir votre rideau ouvert, »
disait le roi. « Vous nous verrez tous. » Auprès de la reine, sur un matelas, étaient Madame de Béthune, sa dame d'Atour, et Madame de Tiange, sœur de Madame de Montespan. Venait ensuite, sur trois matelas se touchant, faute de place, Monsieur et Madame, Louis XIV et la grande Mademoiselle, Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan, une duchesse, une marquise et une fille d'honneur, se serraient pour un dernier matelas placé en équerre. Et des plus gênants, pour le va-et-vient des officiers ayant affaire au quartier général, dans la pièce du fond. Par bonheur pour tout le monde, le roi finit par faire dire à Lauzun de pratiquer un trou dans le mur extérieur de sa chambre et de donner ses ordres par là. Le dortoir royal eut ainsi quelque tranquillité et l'on put s'endormir. À 4 heures du matin, Louvois vint avertir que l'on avait fait un pont. Mademoiselle éveilla le roi et chacun se leva. Ce ne fut pas un beau coup d'œil. Les cheveux étaient pendants et les visages fripés. Mademoiselle se croyait moins défigurée que les autres parce qu'elle se sentait très rouge. Et elle s'en réjouissait, ne pouvant éviter d'être vue par Lauzun. La famille royale remonta en carrosse et s'en alla tout droit entendre une messe à l'Andrecy. Après quoi, ces augustes personnes se couchèrent et dormirent une partie de la journée. Le soir même, à peine levée, mademoiselle fut très grondée par Lauzun de ses peurs ridicules de l'eau. Cela lui fut très doux. C'était la première fois qu'il s'arrogeait pareille liberté. Et les femmes très amoureuses commencent toujours par aimer le ton de maître. Il se voyait moins souvent qu'à Saint-Germain, mais avec plus de liberté. Les hasards des voyages leur valaient ça et là de longs tête-à-tête qu'il mettait à profit, elle, pour devenir pressante, lui, pour se faire désirer. Il lui dit un jour qu'il pensait à quitter le monde.
« J'y entrevois, continuait-il, de si belles et de si grandes espérances. Et si elles me manquent, je mourrai de douleur. Mais,
fit mademoiselle,
« ne songerez-vous jamais à vous marier ?»«
La seule chose, » répondit-il, « à quoi je songerais si je me voulais marier, ce serait à la vertu de la demoiselle. Car s'il y avait la moindre faute, je n'en voudrais pas. »
fût-ce vous, qui êtes au-dessus de tout. »
Il disait cela parce que le bruit courait que le roi voulait marier son favori avec Mademoiselle de la Vallière. Mademoiselle s'écria ingénument.
« Mais vous voudriez bien de moi, car je suis sage. Ne faisons point de compte de peau d'âne quand nous parlons sérieusement. Mais revenons donc à moi. »
C'était justement ce qu'il ne voulait point. Il se rappela tout d'un coup que l'ambassadeur de Venise l'attendait. Une autre fois, Mademoiselle lui dit, en l'abordant, qu'elle était
toute résolue de se marier
et que son choix était fait. Elle ajouta
« J'en veux parler au roi et me marier en Flandre. Cela fera moins de bruit qu'à Paris.
Ah, gardez-vous-en bien !»
s'écria Lauzun alarmé, car il ne jugeait pas le terrain assez préparé.
« Je ne le veux pas, je m'y oppose. »
Quelques jours après, ils regardaient ensemble par une fenêtre et échangeaient leur impression sur les gens de qualité qui venaient à passer.
« Leur taille, leur air, leur mine, leur esprit. »
Au bout de quelque temps, Lauzun dit
« Parce que je vois... « Ce n'est pas un de ceux-là que vous choisirez. »«
Non, assurément, »
répliqua Mademoiselle.
« Je voudrais qu'il passât et vous le pouvoir montrer. »
Comme on avait beau passer, elle reprit.
« Il faut chercher. Il y a encore quelque autre. »
Sur cela, rapporte ses mémoires, il sourit.
Et nous parlâmes d'autre chose.
Ils avaient maintenant de ces sourires d'intelligence. Cependant, la cour revint à Saint-Germain le 7 juin, sans que Mademoiselle eût obtenu la parole décisive, qu'elle ne cessait de mendier. Lauzun opposait des atermoiements à toutes ses avances. Calcul ou excès de prudence, il allait avoir à s'en applaudir.